L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Vous avez soif de Dieu? Donc on parle de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. On peut aller dans 2 Corinthiens, au chapitre 2. Il y a une chose qu'on peut dire déjà avant tout, c'est que ceux qui vont vivre la gloire de Dieu, c'est vraiment ce sont des personnes qui la recherchent et qui la désirent plus que tout. Et la réalité, c'est que la gloire de Dieu, c'est seulement un petit pourcentage de chrétiens qui vont la vivre. Un faible pourcentage. Parce qu'il y a peu de gens qui ont vraiment soif de Dieu. Et c'est sûr qu'à partir du moment où on devient un enfant de Dieu, on a tous une soif quelque part qui s'installe. Mais il y a une différence entre juste avoir soif et être dans le désert complètement assoiffé. C'est tout à fait différent. Et des fois, ma petite fille me dit « Ah papa, j'ai faim ». Et je lui ai dit « Non, non, tu sais pas ce que c'est la faim. Tu n'as jamais connu ça. Tu sais pas ce que c'est avoir faim réellement. » La faim, c'est... Il y a des gens qui ont connu ça. Quand tu n'as pas mangé pendant des jours et que tu n'as rien à manger, là, tu commences réellement à avoir faim. Quand ton ventre commence à te faire mal et vraiment, tu as l'impression que tu n'es plus qu'un ventre, tellement c'est présent, c'est là que tu commences vraiment à vivre la réelle faim. Et par rapport à la soif de Dieu, il y a un pasteur qui avait un problème dans sa vie, c'est qu'il fumait. Et il avait demandé à Dieu pendant longtemps de le délivrer de la cigarette. Et il n'arrivait pas à arrêter. Et il demandait à Dieu, mais pourquoi? Et un jour, il y a un homme qui est venu dans son église. Et lui aussi, il fumait depuis des années et des années. Et il a reçu la prière et l'homme a été instantanément délivré. Et alors le pasteur est rentré chez lui. Il a dit, mais pourquoi? Lui a été délivré en un instant et moi, je ne l'ai pas été. Et le Seigneur lui a dit... C'est parce que tu as encore une envie de fumer. Et pourtant, ça faisait des mois qu'il priait pour être délivré, tout en ayant pourtant une petite envie de continuer. Et parfois, on peut prier, Seigneur, j'ai soif de toi et envoie-moi ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Mais au fond, on ne la désire pas réellement. On prie parce qu'on sait que c'est à ça qu'il faut aspirer. Et il faut aspirer à la présence de Dieu et on a envie, on a le goût de vivre ça. Mais si réellement c'était une réalité, une profonde recherche, eh bien on ne s'arrêterait pas au premier découragement, on ne s'arrêterait pas au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, au bout de trois semaines, mais on continuerait à persévérer. Et il y a des gens comme ça qui ont voulu se marier avec quelqu'un et ils ont persévéré. J'ai entendu des histoires où le garçon ou la fille, pendant 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, il observait la personne de loin et il se disait bah, « ce sera ma femme ou ce sera mon mari ». Et il persévérait, il demeurait dans une amitié et il persévérait toujours avec cette pensée qui était là. Et ça, on peut dire que c'est des gens qui vraiment voulaient se marier avec cette personne. Et par rapport au Seigneur, on peut parler de la gloire de Dieu et c'est un sujet extraordinaire. C'est un sujet très précieux parce que la gloire, c'est vraiment quelque chose de précieux et de merveilleux, de saint. Mais on ne peut pas, entre guillemets, on ne peut pas tous y goûter. On peut potentiellement, mais à cause de certains manques de soif, c'est là qu'on ne peut pas tous y goûter. Parce que c'est seulement ceux qui ont soif qui vont boire. Et c'est ce que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc quand Jésus dit ça, c'est simple, c'est sûr. On peut venir à lui, mais il suffit d'avoir soif. Mais avoir soif, comme je l'ai dit, il y a deux types de soif. Il y a une soif qui est naturelle, mais il y a une soif qui est beaucoup plus profonde et qui va nous amener à tout créer autour de nous et dans notre vie, à transformer notre vie. En fait, on en fait comme une sculpture. Et il y a des sculpteurs, ils vont sculpter quelque chose et ils vont faire ça pendant des jours, des jours et des jours. Et des fois même, la sculpture est là, elle est posée, ils reviennent un mois après et là, ils voient un détail qu'ils n'avaient pas vu auparavant. Et là, ils peaufinent la sculpture et ils s'en occupent de plus en plus. Et c'est un peu ça, la recherche de la présence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'un jour ou de deux jours ou même de deux semaines, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une recherche qui dure longtemps. Et dans le Cantique des Cantiques, il y a la Sulamite qui est là, et la Bible dit qu'elle est chez elle, et là, elle cherche son bien-aimé. Et elle regarde partout dans sa maison, et les heures passent, et elle arrive à une certaine heure dans la nuit, et voit son bien-aimé n'est pas là. Et alors elle sort de la maison et dit, mais qui a vu mon bien-aimé? Qui a vu mon bien-aimé? Et va, malgré les dangers de la nuit, de ces villes-là, les brigands et autres, et sort et va jusqu'aux portes de la ville et demande au gardien, mais avez-vous vu celui que mon cœur aime? Et on la voit, et pendant des heures, elle cherche et elle dit, je le trouverai et je l'amènerai dans la chambre où ma mère m'a conçu. Et ça, c'est vraiment une image de quelqu'un qui cherche réellement Dieu. Quelqu'un qui cherche Dieu, qui cherche la présence de Dieu, qui cherche la gloire de Dieu, c'est quelqu'un qui va construire sa vie autour de ça, autour de la présence de Dieu. C'est pour ça que Jésus a fait une distinction très nette entre un simple suiveur et un disciple de Jésus-Christ. Ce sont les disciples de Jésus-Christ qui peuvent goûter à la gloire de Dieu. C'est seulement un certain nombre de disciples qui ont vu la gloire de Dieu sur Jésus pendant qu'il était sur la terre, lorsqu'ils ont vu cette gloire sur la montagne et lorsqu'ils ont vu Jésus transfiguré. C'est un tout petit nombre de disciples. Même parmi les disciples, c'est un petit nombre parmi les disciples. Et parmi la foule, personne n'était là. Donc, la gloire de Dieu va se révéler à des gens particuliers en raison de leur soif, en raison de leur recherche de la présence de Dieu. Ce sont des gens particuliers, pas à cause de ce qu'ils ont, pas à cause de ce qu'ils sont, mais à cause de ce qu'ils font pour la recherche de la présence de Dieu. Et il y a un passage dans l'Ancien Testament où Dieu parlait à son serviteur et lui disait « Dis au peuple de se sanctifier parce que dans trois jours je vais les visiter. » Et la sanctification, on en a parlé ces dernières semaines, c'est non seulement se détourner du péché, c'est aussi s'approcher de Dieu. Et cette sanctification, elle se fait jour après jour. En venant ici, je me disais, peut-être certaines personnes, au bout d'un moment, à force de parler de la sanctification, elles se disent, mais c'est bon, on a entendu le message, on marche dans la sainteté. Mais il y a toujours plus. Il y a vraiment toujours plus de la sainteté et de la présence de Dieu. Arriver à une vie livrée à Dieu, livrée au Seigneur, une vie qui plaît à Dieu. Et on est enseigné, on sait que Dieu nous aime, on sait que Dieu est amour, on sait que Dieu ne nous condamne pas, qu'on est juste. Et avec tout ça, on pourrait marcher simplement dans ça et oublier qu'il y a beaucoup plus que ça encore. C'est bien notre position en Christ, mais comme on l'a dit ces dernières semaines, il y a aussi qu'est-ce qui se passe dans notre vie, notre condition. Et dans notre condition, Dieu veut nous visiter. La Bible dit que effectivement Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes, mais par contre il la partage dans le sens où il va la manifester et entre guillemets la distribuer, la rendre visible à son peuple. Donc c'est une des choses qu'on peut dire déjà sur la gloire, c'est que la gloire est réservée aux personnes qui ont désespérément soif de cette gloire. Et si on a soif, ça va se voir. Comme je dis parfois, le feu n'a pas besoin de dire qu'il est là. Le feu brûle. Et il y a des gens qui parlent beaucoup et ils disent « Moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi j'ai fait ceci. » Et en fait, on sait, il y a l'expression qui dit que c'est ceux qui en font le moins qui en disent le plus. Et le feu n'a pas besoin de dire qu'il est là, il brûle. Et si réellement on a une soif de Dieu, ça va se manifester, ça va se voir. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez soif de Dieu. Et lorsqu'on faisait la prière le matin, on a fait ça pendant des mois, C'est ceux qui avaient soif de Dieu qui étaient là. Et ceux qui se consacrent à Dieu, c'est pas un secret, c'est ceux qui ont soif de Dieu. Et ceux qui sont là à la prière, c'est ceux qui ont soif de Dieu. Donc il n'y a pas de secret. C'est si on a soif du Seigneur, on va se consacrer pour lui. Et on va régler notre vie comme le sculpteur qui façonne le vase, par exemple, qu'il est en train de faire, ou la sculpture. Et ben on va façonner notre vie pour de plus en plus se consacrer à Dieu. Se consacrer dans notre temps, se consacrer à tous les niveaux dans notre vie, pour que de plus en plus notre temps puisse appartenir à Dieu, tous les domaines de notre vie puissent lui appartenir, notre argent puisse lui appartenir, qu'en fait tout ce qu'on a puisse servir à la gloire de Dieu. Et ça, c'est vraiment ce que le Seigneur désire. Dans 2 Corinthiens au chapitre 2, l'apôtre Paul dit au verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Il y a une traduction qui montre un peu mieux ce dont il est parlé ici. Lorsqu'il est parlé de triompher en Christ, on sait que c'est une allusion directe au cortège triomphal qu'avaient par exemple des soldats et lorsqu'une armée gagnait. Eh bien, c'était un cortège triomphal, celui du vainqueur, et il y avait les captifs derrière, il y avait les prisonniers. Et la Bible dit que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Donc notre position, c'est une position de triomphe, c'est une position de victoire, c'est une position de gloire. Et il dit, cette position de gloire, ce triomphe, cette victoire, elle est répandue en tout lieu, et on répand l'odeur de sa connaissance. Ceux qui vont vivre d'une manière régulière la gloire de Dieu, ce sont des gens qui vont dégager une odeur, l'odeur de la connaissance de Dieu. En fait, c'est vraiment un principe du royaume de Dieu, c'est celui qui donne, il reçoit. L'arroseur est lui-même arrosé. Celui qui donne peu, il récoltera peu, celui qui donne beaucoup, récoltera beaucoup. Donc c'est toujours ce même principe dans la parole de Dieu. Et c'est pas qu'on a acheté, entre guillemets, la bénédiction, c'est simplement un principe. Autant dans le naturel, plus on va semer une graine et normalement plus on devra avoir de résultats, autant c'est la même chose dans le spirituel. Donc on devrait dégager une odeur dans notre vie chrétienne, dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Il doit y avoir une odeur qui se dégage de nous, il y a quelque chose qui doit se manifester de notre vie, quelque chose que les gens doivent pouvoir sentir, se dégager au travers de nous. Il dit, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Donc ceux à qui Dieu partage sa gloire, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Des gens qui marchent avec Dieu. Ce ne sont pas des ministères, quand je parle de serviteurs ici, ce sont simplement des serviteurs de Dieu, des chrétiens, qui servent le Seigneur et qui ont assez dégagé de choses dans leur vie pour mettre le royaume de Dieu en premier. Et à cause de cela, la gloire du Seigneur les touche, les visite d'une manière régulière. Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Bien des années auparavant, lorsque Dieu s'est manifesté à lui devant le buisson ardent, il avait peur. Mais il a appris à connaître Dieu jusqu'à un tel point où il avait une telle soif de Dieu. Par contre, le peuple d'Israël, ils avaient peur de Dieu avant, et ils avaient peur de Dieu après. La Bible dit qu'ils n'osaient pas s'approcher parce qu'ils avaient peur. Pourtant, il y avait un certain accès qui leur était donné, mais ils avaient peur. Ils regardaient simplement Moïse de loin, entrer dans la tente. Et c'est ce Moïse qui recherchait la présence de Dieu, qui a vu la gloire de Dieu. Et pourquoi Dieu donne pourquoi il touche ses serviteurs avec sa présence, avec sa gloire? C'est parce que ses serviteurs sont soumis aussi et sont sujets à toutes sortes de pressions spirituelles. Et dans leur combat pour Christ, ils ont besoin de la présence de Dieu. Ils ont besoin de la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul disait un peu plus loin que constamment, ils sont sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Les gens disent qu'ils sont découragés, ils sont oppressés, etc. Donc, ils étaient sans cesse livrés à la mort à cause de Christ. Donc, ils avaient besoin de la gloire de Dieu. Et ceux qui sont persécutés dans le monde, ils vivent des expériences extraordinaires pour beaucoup, parce qu'il y a toutes sortes de pressions qui sont là. Et sans la présence de Dieu, sans la gloire de Dieu, l'apôtre Paul disait « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Donc il me rend fort. Ce n'est pas juste une déclaration, mais c'est quelque chose de réel. Autant on peut manger quelque chose et ça rend fort notre corps, autant il y a une nourriture et des vitamines spirituelles que Dieu peut nous donner au travers de sa présence. Et ça nous fortifie, ça nous rend fort, ça nous rend hardi. Et lorsque la gloire de Dieu descend sur nous, il y a une hardiesse nouvelle qui se lève. Il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste au travers de notre vie. Une hardiesse, un désir, une recherche beaucoup plus grande qu'auparavant. Donc Dieu distribue sa présence, il nous touche avec sa gloire. Lorsque nous mettons en priorité son royaume et lorsque nous commençons à marcher, comme il veut que nous marchions, lorsque nous commençons à dégager ce parfum et que nous commençons à répandre l'odeur de sa connaissance. Ceux qui restent la bouche fermée, ceux qui restent de côté, ne pourront pas vivre dans la gloire de Dieu. Peut-être souverainement, un jour, la gloire de Dieu viendra sur eux, mais ils ne pourront pas rester demeurer dans cette gloire, parce que ça a un coût, entre autres la consécration. Donc, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, Dieu veut nous la donner. C'est le désir du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes donc en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Et dans ce chapitre 2 et 3, ces deux chapitres, l'apôtre Paul va faire toujours une distinction entre deux types de personnes ou deux types de choses. On va en voir plusieurs. La première, il parle de ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. Donc Dieu nous appelle à être une source de bénédiction, chacun d'entre nous, qui que nous soyons, envers ceux qui sont sauvés et envers ceux qui périssent. Il y a un verset étonnant qui va nous dire de nous occuper surtout de ceux de la famille de Dieu, par rapport à l'argent qu'on peut donner et au soutien, entre autres avec les veuves et les orphelins. Donc on voit que on est appelé à dégager un parfum, une odeur, des fruits, envers ceux qui sont sauvés et envers ceux qui périssent. En fait, sur ce chemin d'obéissance à Dieu, sur ce chemin de l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est sur ce chemin que nous allons rencontrer la gloire. C'est sur ce chemin que nous allons rencontrer la présence de Dieu. Comme je l'ai dit, souverainement, la gloire peut venir sur nous et nous ouvrir les yeux. Nous dire, mais voilà, ta situation, elle est comme ça aujourd'hui. Lorsque la présence de Dieu descend sur quelqu'un, cette personne peut manifester quelque chose, elle peut tomber dans l'esprit, ou en tout cas, elle peut vivre certaines choses, mais c'est simplement pour lui montrer sa situation, où elle est aujourd'hui, dans quel état elle se trouve. Et souvent, ces personnes vont ouvrir les yeux et vont réaliser, mais je suis tellement loin de ce que Dieu veut pour moi. Et alors là, ils se retrouvent sur ce chemin d'obéissance à Dieu, où ils vont commencer à accomplir les choses que Dieu a pour eux. Et sur ce chemin, à plusieurs endroits, la gloire de Dieu va les toucher. Ils vont rencontrer la présence de Dieu. Dieu veut nous partager sa présence. Et comme la nuée, elle était là pour diriger le peuple de Dieu, Israël, dans le désert, et le feu était là aussi la nuit. Et la Bible dit qu'il suivait cette nuée. Quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait, etc. On le sait. Mais de la même façon, la présence de Dieu devrait pouvoir nous diriger dans notre vie. Et là où il n'y a pas la présence de Dieu, on devrait se poser un certain nombre de questions. Parce que la présence de Dieu, elle est pour les enfants de Dieu. Elle est pour nous. Si on ne vit pas dans la présence de Dieu, si régulièrement la présence de Dieu, on ne la goûte pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être, on est comme le jeune homme riche, on a mis quelque chose entre Dieu et nous. Il y a quelque chose qui nous empêche de vivre cette présence, de vivre la gloire de Dieu. La Bible va parler par exemple par rapport aux incroyants d'un voile, ou par rapport aux pharisiens, les religieux, un voile qui les empêche de voir. Et des fois, il y a des voiles comme ça dans nos vies qui nous empêchent de goûter et de voir combien le Seigneur est bon. Il dit, voyez et goûtez combien le Seigneur est bon. Donc on sait, c'est son désir le plus grand qu'on puisse voir et goûter combien il est bon. Et Jésus a dit des paroles étonnantes. Il dit, venez, venez à moi et mangez, buvez mon sang, mangez ma chair. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de, qui dépasse le naturel. On sait que ce n'est pas des choses naturelles qui nous parlent ici, c'est vraiment spirituel. Donc il y a des mystères, il y a des choses beaucoup plus grandes qu'on est appelé à vivre et qu'on est appelé à goûter. Et ces choses-là, elles se font sur le chemin de l'obéissance. Lorsqu'on commence à marcher dans réellement ce que Dieu a pour nous, dans notre vie, c'est sur ce chemin-là que la présence de Dieu viendra nous rencontrer. Cette femme dont on a parlé dans le Cantique des Cantiques, elle recherchait son bien-aimé et elle l'a trouvé. Elle a dit « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Elle cherchait tellement son bien-aimé qu'elle l'a trouvé. À un moment, l'apôtre Paul, pardon, il dit ça. Il parle d'un serviteur, je ne sais plus si c'est Onésime ou Onésiphore, en tout cas, je ne sais plus lequel. Et il dit, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Il y a une grande différence entre chercher et trouver. Deux types de personnes. Il y a ceux qui cherchent, il y a ceux qui cherchent mais qui vont trouver. Il y a des gens, ils disent, ah, moi je ferai tout pour réussir, je ferai tout pour réussir, et il arrive un certain nombre d'années et ils ne réussissent pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'avaient pas un profond désir de réussir. Ils voulaient réussir, mais la réalité de leur vie les a empêchés de réussir. Leur désir n'était pas assez grand. En fait, au-dessus de leur désir, il y avait les circonstances. On peut avoir un désir qui est là, qui est réel, de vivre à la présence de Dieu, mais les circonstances peuvent nous empêcher de vivre ce désir. Donc c'est deux types de personnes. L'apôtre Paul dit, donc il m'a cherché et il m'a trouvé. Et on devrait chercher la présence de Dieu au point de la trouver. Et c'est là qu'on va voir vraiment l'état de notre cœur, le type de cœur que nous avons. Donc au verset 15, ici dans 2 Corinthiens 2, 15, il dit, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Donc ça nous parle de deux types de personnes envers qui on devrait être une source de bénédiction. Il dit, aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Alors en lisant les deux versets, on peut penser que voilà, bah, l'odeur de mort, elle est pour ceux qui périssent, et l'odeur de vie, elle est pour ceux qui sont sauvés, mais pas toujours. Dans le sens où on peut vouloir être une source de bénédiction pour ces deux types de personnes, mais on ne sera pas reçu par tout le monde. Il y a des croyants, on veut les bénir, mais pour eux, on est une odeur de mort. Parce qu'ils refusent nos paroles. Jérémie, Dieu disait par exemple à Jérémie, à Ézéchiel, voilà, vous parlerez à un peuple qui ne veut pas entendre. Donc, Jérémie était pour ces gens-là une odeur de mort. Et tous les prophètes d'ailleurs l'ont été pour un certain nombre de personnes, pourtant qui croyaient et qui faisaient partie du peuple de Dieu. Donc, on peut être une odeur de mort même pour les croyants. Et il faut persévérer, il faut continuer. Donc, on est une odeur, mais pour certains, ça va être une odeur de mort. Ça veut dire que ça ne va rien amener. Pour d'autres, par contre, ça va amener un résultat. Parmi les croyants, parmi les incroyants. Et dans notre vie, on doit sonder, on doit regarder réellement est-ce que on est quelque part une source de bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui se cachent en se disant ben, « ça c'est réservé au ministère, c'est réservé aux serviteurs de Dieu ». Mais oui, dans l'Ancien Testament, c'était effectivement le cas. Il y avait une onction qui était là, qui était que pour les prophètes, les sacrificateurs, etc. Mais dans le Nouveau Testament, on sait que c'est totalement différent. Il dit, voilà, vous serez des sacrificateurs, vous êtes une race élue, un peuple mis à part, etc. Donc, on est tous des serviteurs de Dieu. Et on ne peut pas se cacher en se disant, c'est réservé seulement au ministère, voilà, ils sont à temps plein, etc. Et c'est eux qui doivent porter du fruit. Parce que nous, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à être une source de bénédiction, à être une odeur qu'on dégage parmi les croyants et parmi les incroyants. Et ça, c'est dans cette recherche-là, Et quand on commence à obéir au Seigneur et qu'on commence à manifester des actes concrets, des paroles concrètes, c'est là que la présence de Dieu viendra nous toucher. Quand on est en train d'obéir à Dieu et à la fois qu'on est en train de rechercher Dieu, parce que les deux vont ensemble. On ne peut pas être une source de bénédiction et dégager une odeur si en même temps on ne se consacre pas à Dieu. On ne peut pas vouloir la gloire de Dieu, vouloir des fruits, vouloir des miracles, vouloir que des gens se convertissent, etc., sans d'un autre côté se consacrer à Dieu et passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que le parfum vient sur nous, l'onction. L'onction, c'est le parfum de Dieu qu'il met sur nous. C'est pour ça que les gens, ils appliquaient des mouchoirs sur certains serviteurs de Dieu et les gens étaient délivrés de certains démons, ils étaient guéris parce que c'était un parfum. La Bible dit qu'on mettait des gens et même l'ombre de Pierre guérissait les gens. Donc c'est toujours un parfum qui était là, c'était pas son ombre naturelle, on sait que c'était ce qu'il dégageait. Donc il y a un parfum qui se dégage de notre vie. Et le parfum peut être très léger, où les gens doivent s'approcher jusqu'à vraiment quasiment notre peau pour le sentir. Et il y a des parfums qui se sentent beaucoup plus loin. On peut être très très loin et sentir le parfum. Donc on a tous une mesure du parfum de Dieu, une mesure de l'onction. La Bible nous dit, on a reçu tous une mesure de la présence de Dieu. Donc elle est là, elle est sur nous, elle est en nous, Dieu nous l'a donnée. Mais cette mesure n'est pas la même pour tout le monde. Et cette mesure, comment elle va grandir? C'est lorsqu'on est là en train de se consacrer. Lorsqu'on est en train d'aimer Dieu, lorsqu'on est en train de chercher dans la ville où est Dieu, où est notre bien-aimé, lorsqu'on est là sur notre couche, la Bible dit, donc sur notre lit, dans notre chambre, et qu'on recherche, on cherche la présence de Dieu. Mais où est la présence de Dieu? Où est la présence de Dieu? Et on cherche la présence de Dieu. Et c'est là qu'on passe dans des temps de consécration plus grands qu'auparavant. En fait, on a un désir qui n'est pas abreuvé. On a une soif qui est là. On a un désir qui est là et qui demeure. Et on s'aperçoit que plus on avance et moins les choses de ce monde ont de la valeur pour nous, ont du goût pour nous. Mais ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vivre réellement, ce qui nous fait vivre demain, aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu, c'est être dans sa présence. Et lorsqu'on arrive à ça, lorsqu'on arrive à cette recherche et cette priorité du royaume de Dieu et de Dieu lui-même, c'est là que la présence de Dieu vient. Elle vient nous percuter parfois. Elle vient nous toucher. Elle vient nous visiter. Et on arrive à des temps où on cherche le Seigneur et parfois on peut prier et appeler Dieu et crier Dieu. Et on sait que Dieu est là, il habite en nous, sa présence est toujours là. Mais rechercher la présence manifeste de Dieu à le découvrir plus. Et on a l'impression parfois qu'il ne se passe rien. Et quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, paf, le Saint-Esprit vient nous visiter. Parce que c'est comme il le veut. Il le fait. Donc, une odeur de mort et une odeur de vie. Et il termine en disant, et qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour ces choses? Donc, il dit, on est le parfum de Christ parmi les sauvés, parmi ceux qui ne sont pas sauvés. Certains, on dégage une odeur de mort. Certains, une odeur de vie. Et il dit, qui est suffisant pour ces choses? Donc, il comprend bien que et il montre ici qu'il y a une réalité dans le naturel, c'est qu'on est insuffisant. Insuffisant pour accomplir la volonté de Dieu. On est insuffisant, il y a une insuffisance quelque part pour manifester ce que Dieu voudrait qu'on manifeste. Dans le naturel, on est insuffisant, donc incapable. Il y a une incapacité à laquelle on arrive au bout d'un moment. On parle aux gens du Seigneur, on prie pour les malades, on donne notre témoignage, etc. Mais au bout d'un moment, on arrive à une insuffisance. Et c'est dans cette insuffisance que, bon, il y a deux types de réactions, soit le découragement, parce que les circonstances étaient au-dessus de notre soif, ou soit, malgré ça, c'est là qu'au contraire, on va vraiment s'humilier sous la puissante main de Dieu. Et on va faire sortir ce qui est réellement dans notre cœur. C'est dans la pression et c'est dans le temps qu'on voit réellement ce qu'est dans le cœur d'une personne. C'est pas, c'est sûr, les fiançailles sont là pour voir qu'est-ce qu'a la personne dans son cœur, mais il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir, qui sont fait rouler parce que les fiançailles n'étaient pas suffisantes. Le temps révèle les cœurs, quelqu'un a dit. Donc le temps va révéler ce qui est réellement dans notre cœur. Quelle est la recherche de notre vie? On a tous connu des gens qui se sont convertis, qui sont venus au Seigneur et qui ont dit « Seigneur, voilà, je te donne toute ma vie » et qui aujourd'hui sont rétrogrades. Pourquoi? Parce que à un moment donné, leur recherche de Dieu n'était plus leur priorité. Ils ont mis d'autres choses par-dessus. Le jeune homme riche, il s'en alla tout triste. Et ces gens-là, ils sont tout tristes parce qu'ils ont toujours dans le cœur ce désir de faire la volonté de Dieu. Ils savent, ils connaissent la vérité. Et la Bible dit qu'ils sont retournés à leur bourbier, donc aux choses de leur passé. Et ça, c'est vraiment une tristesse. Donc, qui est suffisant pour ces choses? En fait, par cette question, il nous dit que il y a une insuffisance, mais il ne s'arrête pas là, il va parler plus tard de la gloire de Dieu. Et c'est ça le thème, c'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui va nous rendre suffisants pour ces choses? C'est quand la gloire de Dieu vient sur nous. Lorsque la présence de Dieu vient sur nous, elle nous rend capables. C'est une capacité surnaturelle de l'Esprit de Dieu qui vient sur nous et qui nous rend capables de porter du fruit. Et lorsque, à la Pentecôte, la gloire de Dieu est descendue sur eux, ils ont vu 3000 personnes se convertir. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était descendue sur eux. Ils étaient chargés si grandement de la présence de Dieu que les gens pensaient qu'ils étaient ivres. Parce que la présence de Dieu les couronnait complètement. Ils étaient dans une autre dimension. Totalement dans une autre dimension. Lorsque Pierre a prêché, il n'avait pas pris quelques notes et préparé sa prédication, mais c'était le Saint-Esprit qui parlait au travers de lui. Tout à coup, à cause de la gloire de Dieu sur lui et l'onction qu'il a reçue, il a commencé à réaliser ce que le prophète Joël avait dit est en train de se manifester. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était sur lui à ce moment-là. Lorsqu'Étienne a été lapidé et qu'on lui jetait les premières pierres, et que certainement il commençait à être fracassé et saigné, la Bible dit qu'il a vu la gloire de Dieu. Et c'est cette gloire qui lui a permis de dire « Seigneur, pardonne-leur ». Sans cette gloire, il n'aurait pas réussi. Mais la gloire de Dieu, la grâce de Dieu et la gloire de Dieu lui a permis de déclarer une telle chose, dans une telle situation. Donc la gloire de Dieu nous donne une capacité surnaturelle, extraordinaire. Et nous n'aimons pas les pressions spirituelles et on n'aime pas la persécution, mais dans la persécution, il y a une gloire de Dieu qui vient sur nous. Lorsqu'on se soumet à Dieu et qu'on s'humilie sous sa puissante main, c'est là qu'on est fortifié. Et en fait, on devient de plus en plus fort. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, même si notre être extérieur, il se détruit de jour en jour, parce que c'est la réalité, notre être intérieur, lui, il va de gloire en gloire, il se fortifie. Mais on voit que ce n'est pas ce qui se passe dans la vie de tout le monde. On peut voir des chrétiens et ils commencent bien et ils terminent très mal. Donc leur être intérieur n'est pas fortifié. Leur être intérieur ne va pas de gloire en gloire, au contraire. Ils vont jusqu'à, la Bible dit, cautériser leur conscience. Ça veut dire la bloquer complètement, la rendre insensible. Donc là encore, ceux qui vont aller de gloire en gloire, ce sont ceux qui marchent réellement pour Dieu et qui ont un désir si grand de voir la présence de Dieu. Ce sont des gens qui entrent dans une nouvelle dimension. Ce sont des gens qui sont touchés par la présence de Dieu et qui aspirent à la gloire de Dieu. Donc qui est suffisant pour ces choses? Il dit « Car nous ne sommes pas comme plusieurs des falsificateurs de la parole de Dieu, c'est avec sincérité » C'est de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons. Là encore, il parle de deux types de personnes, les falsificateurs et les gens sincères. Il dit « Nous ne sommes pas des falsificateurs, mais nous parlons avec sincérité. » Donc là encore, deux types de personnes. Ceux qui falsifient la parole de Dieu, donc qui en détruisent la valeur, qui la méprisent ou qui en font simplement un moyen de gagner de l'argent ou de gagner de l'honneur, de la gloire humaine, et ceux qui en parlent avec un cœur sincère, donc avec la sincérité. Et bien sûr, là, on doit simplement regarder notre vie, mais je crois qu'ici, les gens sont sincères. On est sincère devant Dieu. Au verset 6 du chapitre 3, il continue, bon, le verset 5, il dit « Non que nous ne soyons pas nous, par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. » Tout à l'heure, je n'avais pas vu ce verset, mais ça nous parle effectivement de ce qu'on vient de partager. Notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables, donc cette capacité de la présence de Dieu, l'onction qui est venue sur nous, d'être ministre d'une nouvelle alliance. Donc, il parle d'une nouvelle alliance, donc d'une ancienne alliance. Là encore, il parle de deux choses. Nouvelle alliance, donc ancienne alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Il parle de la lettre, il parle de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Ça, c'est un des grands principes de la vie chrétienne, du christianisme et de la vie de disciple. C'est soit on va marcher dans la lettre qui tue, soit on va marcher dans l'esprit qui vivifie. Soit on va marcher dans l'ancienne alliance, comme des gens religieux, dans une loi, et constamment on est dans la condamnation, on ne se sent jamais bien, et parce qu'on regarde toujours en nous au lieu de regarder à ce que Christ a fait. Ou alors, au contraire, on marche vraiment dans la nouvelle alliance et on marche avec cet esprit qui vivifie. Il dit, or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas glorieux ? Donc, il parle du ministère de la mort et il parle du ministère de l'esprit. Deux types de ministères. Et pourtant, même dans l'ancien ministère, entre guillemets, l'ancienne alliance, Moïse a eu, quand il ressortait de la présence de Dieu, son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais l'apôtre Paul dit très clairement que cette gloire qui était là, elle était juste passagère. Donc, on devrait vivre des choses beaucoup plus grandes qu'une simple gloire passagère. On devrait vivre la gloire de Dieu. Pas forcément, entre guillemets, tous les jours, mais on devrait la vivre. On devrait la goûter. On devrait goûter combien le Seigneur est bon. On devrait goûter à ces choses-là, entre guillemets, ces choses-là. Il dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Ministère de la condamnation, ministère de la justice. Deux types de ministères, deux types de vie, deux types de façons de vivre notre vie chrétienne, notre vie avec Dieu. Soit dans la loi qui est dure, difficile, ou soit dans la grâce, dans la justice, dans ce que nous sommes en Christ. Donc, il parle de gloire ici. La gloire de Dieu, c'est ce dont on parle. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, mais forte et pesante. En fait, le mot « gloire » ici, ça vient d'un autre mot qui nous parle, entre autres, l'une des définitions, c'est la pesanteur, la lourdeur. C'est quelque chose qu'on connaît dans l'onction. La gloire, c'est la pesanteur, la lourdeur. Lorsque la Bible dit de nous humilier sous la puissante main de Dieu, c'est sous cette lourdeur de Dieu. Lorsque la présence de Dieu vient sur nous, c'est pour ça que les gens tombent dans l'esprit. C'est quand la présence de Dieu vient et qu'elle est tellement lourde sur eux. On voit Ézéchiel, lorsqu'il a été visité par Dieu, la Bible dit qu'il a vu la gloire de Dieu, automatiquement il est tombé. Parce que c'était pesant. Et pour notre corps, c'est pesant. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre la gloire de Dieu 24 heures sur 24. Parce qu'on mourrait. Ce serait impossible. C'est pour ça que Dieu dit « L'homme ne peut pas me voir et vivre. » Parce qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu telle qu'elle. Même lorsque Moïse a dit « Fais-moi voir ta gloire », il a dit « Oui, mais » il a dit un « Mais ». Il a dit « Ok, je mettrai ma main sur toi, tu ne pourras me voir que de dos. » Parce que automatiquement, si on voyait Dieu face à face, ce serait fini. On le rejoindrait automatiquement. Et un jour, on le verra, ce sera glorieux. Mais jusqu'ici, on goûte à une certaine gloire de Dieu, à une certaine présence de Dieu. Donc, ministère de la condamnation, ministère de la justice, mais il y a une gloire qui est là. Une gloire qu'on peut vivre. Donc, la pesanteur. Cette pesanteur, c'est cette onction donc, qui vient et qui fait parfois les gens peuvent tomber. Là je parle de réelles choses, de vraies choses, où la présence de Dieu vient sur eux si fortement que c'est comme s'il y avait une déconnexion entre leur âme et leur esprit. Il y a quelque chose où entre leur corps, on pourrait dire, et leur esprit. Quelque chose qui fait comme si on les débranchait. Et là ils peuvent tomber dans l'esprit, et là, il se passe quelque chose. Il y a une pesanteur de Dieu. C'est la main de Dieu qui est sur eux et qui accomplit un travail. Parfois qu'ils ne comprennent pas, mais normalement, ils devraient comprendre en tout cas un certain nombre de choses, parce qu'ils devraient ressortir de là en se disant « Waouh, j'ai goûté à la présence de Dieu ». Et comme je le disais tout à l'heure au début, souvent, ça va leur montrer là où ils s'en sont. Quand la présence de Dieu vient sur nous, ça nous montre là où on en est avec Dieu. Et ça nous montre aussi là où Dieu nous appelle à aller et à procéder à certains changements. Donc, il y a une gloire qui est là dans le ministère, il y a une gloire qui devrait se manifester dans notre vie chrétienne. Dans la présence de Dieu, Dieu nous promet cette gloire. Il dit, il continue, « Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire plus éminente. » Donc, il est en train de dire, il y a eu du glorieux, mais aussi quelque chose qui est supérieur en gloire. Deux types de choses qu'on peut vivre avec Dieu. En fait, beaucoup de gens se satisfont de la vie chrétienne normale, entre guillemets normale. Ils vont à l'église, etc. Ils lisent leur Bible, parfois, très irrégulièrement. Ils pensent à Dieu peut-être une ou deux fois par semaine et ils prient très rarement. Et ils sont satisfaits. On ne les voit pas dans des réunions spéciales, on ne les voit pas dans des réunions où, où on pourrait rechercher la présence de Dieu. Ils sont absents et dans des temps de louange, ils ne sont pas là, ils sont ailleurs. Et je ne parle pas, je ne suis pas en train de penser à des gens, mais c'est simplement la réalité partout dans le monde. Donc, ils sont satisfaits avec ce qu'ils ont. Et il y a d'autres types de personnes. À un moment, Élie pensait être le seul. Et Dieu lui dit, non, tu n'es pas le seul. Il y en a d'autres comme toi, qui n'ont pas fléchi le genou. Donc, il y a des gens qui sont assoiffés de Dieu, partout sur cette planète, dans tous les pays. J'ai été dans quelques pays, et dans les quelques pays où j'ai été, en tout cas pour l'Évangile, j'ai vu des gens qui étaient assoiffés de Dieu. Et j'aime voir, aller visiter des églises, certaines églises, que ce soit ici ou ailleurs, et voir les gens qui sont assoiffés de Dieu. Il y en a partout. Et ça, c'est bon. Vous les voyez, vous les reconnaissez, vous êtes attirés à eux. J'étais dernièrement à des funérailles, et là j'ai rencontré une mamie de 86 ans, je crois. Et comme ça, j'ai été connecté à elle. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une soif en elle. Parce que c'était quelqu'un qui avait soif de Dieu, quelqu'un qui cherchait vraiment Dieu depuis des années et des années, quelqu'un qui a mis Dieu en priorité dans sa vie. Et il y a des gens comme ça, vous êtes attirés à eux parce qu'ils ont soif. Ils ont soif de Dieu. Et il en existe partout. Et Dieu nous appelle à être ce type de personnes. Ce genre de personnes qui sont assoiffées de Dieu. On n'en a jamais assez. On ne se dit jamais, voilà, on est satisfait. Et c'est sûr que les gens qui sont satisfaits, ils ne se sont jamais dit. Ils ne se sont jamais avoués qu'ils sont satisfaits. Mais ils l'ont démontré au travers de leurs actes ou de leur manque d'actes. Au travers de leurs paroles ou de leur manque de paroles. De leur présence ou de leur manque de présence. Présence à certaines mauvaises choses et manque de présence aux choses réelles. Donc, on a tous des degrés de satisfaction. Et il y a des cycles dans nos vies ou des saisons, on pourrait dire, où il y a quelque chose qui s'éveille en nous et on se dit, mais non, je suis en train de me refroidir. Je suis en train de tiédir et je veux pas tiédir. Je veux être en feu pour le Seigneur. Et c'est quand le Saint-Esprit, comme ça, éveille quelque chose en nous, c'est des temps particuliers où on doit écouter sa voix. Et Dieu nous appelle parfois à plus de consécration, à des temps particuliers. Il y a des temps, c'est sûr, il y a des temps pour semer, il y a des temps pour récolter. Il y a des temps pour pleurer, il y a des temps pour rire. Il y a des saisons dans la vie. Dieu ne nous appelle pas à être 24 heures sur 24 sur les genoux. Non, Dieu nous appelle aussi à travailler de nos mains. Donc il y a des choses qui sont là et qui sont aussi dans le naturel. Si on a fait le choix, par exemple, de se marier, bah, Dieu veut qu'on s'occupe de notre femme, de nos enfants, etc. Donc il y a des choix, il y a des choses qui sont là, réelles. Donc on sait que Dieu, il veut pas faire de nous des robots. Et on est des êtres humains. On est aussi des esprits. Et ces esprits, ils doivent être rechargés dans la présence de Dieu. Donc la gloire, c'est quelque chose que Dieu veut pour nous. Il continue un peu plus loin, au verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Donc pour eux, c'était seulement passager. Et on l'a dit, pour nous, bien sûr, il y a quand même cette réalité. On ne peut pas goûter à la gloire de Dieu 24 heures sur 24. Par contre, dans notre esprit, on sait que c'est la gloire. On sait que la Bible dit nous sommes en communion avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Donc 24 heures sur 24, dans notre esprit, nous savons que nous sommes en relation avec Dieu. Dans notre esprit, on sait qu'à tout moment, on peut s'approcher de la présence de Dieu. C'est quelque chose qui nous a été donné au travers de Christ. Alors qu'eux n'avaient pas ça dans l'Ancien Testament. Pour eux, c'était passager. Pour nous, c'est en nous et c'est constamment. À partir du moment où on est né de nouveau, on sait que c'est un privilège extraordinaire que Dieu nous a donné de pouvoir nous approcher de lui en tout temps. Ça, c'est quelque chose qui est en nous. Mais ils se sont endurcis dans leur pensée, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Donc, ce voile de la religion ne disparaît qu'en Christ. Mais là encore, ce ne sont pas tous les chrétiens qui n'ont pas ce voile. Il y a certains chrétiens encore où le voile demeure. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas en Christ. Dans le sens où ils ne recherchent pas Christ. Donc parce que leur recherche de Christ n'est pas réelle et n'est pas profonde, eh bien, il y a un voile qui est là. On en a parlé tout à l'heure, par exemple, le jeune homme riche, l'amour de l'argent. Donc, ils aiment le monde. Ça, c'est quelque chose de très vivant chez beaucoup de gens. Ils aiment le monde, ils aiment l'argent, ils aiment ceci et cela. Et à cause de ça, bah, il y a un voile qui est là, qui les empêche de voir ce à quoi Dieu voudrait les amener. Parce que Dieu veut nous amener de gloire en gloire. Dieu veut nous amener plus loin que ce qu'on voit là aujourd'hui. C'est ce qu'il veut. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur, mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, il parle du voile et il parle de la liberté. Deux choses totalement opposées, différentes. Lorsque le voile est ôté, la liberté est manifestée. Quand il n'y a plus de voile, il y a une liberté qui est là. Un jour, quelqu'un disait que si on ne veut pas déranger, on va se ranger. C'est ce que font beaucoup de gens. Ils veulent pas déranger, donc ils se rangent. Et ils veulent pas... Quelqu'un qui n'est pas prêt à vivre la gloire de Dieu, il va se ranger. Quelqu'un qui a peur, par exemple, de vivre la présence de Dieu, il va se ranger. C'est-à-dire qu'il va s'empêcher de faire certaines choses qui pourraient l'amener à ça. Parce qu'il y a un voile qui est là. Oui, c'est sûr, il y a cet aspect-là, oui. Mm-hmm. Il y a cet aspect-là de compréhension, parce qu'ils parlent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, donc ça nous parle bien sûr de la parole de la compréhension. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Mm. C'est ça. Donc, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et dans notre marche avec Dieu, on devrait aller de gloire en gloire aussi dans notre liberté en Christ. Les gens qui marchent avec Dieu, ce sont des fous selon ce monde. C'est ce que dit la Bible. Et dans l'Église, parfois, ils sont vus aussi comme des fous. La folie, c'est quoi ? C'est ce qui n'est pas normal selon les gens, ce qui n'est pas habituel. Vous pouvez aller à la piscine et tout le monde est en maillot de bain. Par contre, si dimanche matin, vous voyez le pasteur en maillot de bain, vous allez dire qu'il est fou. Pourquoi ? Parce que c'est pas ce qui se passe là. Les gens, c'est pas dans la norme. C'est pas habituel. Pourtant, dans un autre cadre, on trouverait ça tout à fait normal. Donc la folie, c'est ce qui n'est pas normal. Et ceux qui marchent avec Dieu et qui vont voir la gloire de Dieu, ce sont des gens anormaux. Ce sont des gens qui ne rentrent pas dans un moule. Ce sont des gens qui marchent selon l'esprit. Donc, dans l'esprit, il y a une liberté. Et tous, Dieu, un jour, nous a parlé, nous a encouragés, et ça, c'est vraiment à différents niveaux. Mais on s'est aperçu que lorsque on s'est rangé par la peur, par exemple, eh bien, on a été bloqué. On n'a pas manifesté ce que Dieu voulait. Et on n'a pas goûté à ce que Dieu aurait voulu qu'on goûte. Et dans cet aspect de la gloire de Dieu, on voit dans le ministère de Jésus, la Bible dit qu'à partir du moment où il a proclamé ce passage d'Ésaïe, il prêchait, il enseignait et il guérissait les gens. C'était son ministère. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, guérissant les gens, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Parce que Dieu était avec lui. C'est sûr, si Dieu est avec nous, il doit avoir quelque chose qui se manifeste. C'est pour ça, c'est ça que je disais au début. Si on n'a pas goûté à la présence de Dieu, il faut se poser une question. Est-ce que vraiment Dieu est avec nous? Ou plutôt, est-ce que je suis avec Dieu? Est-ce que je suis au bon endroit? Donc, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de, bien sûr, c'est cette présence de Dieu. Mais lorsqu'on a touché à la présence de Dieu, il devrait avoir une production de fruits. Dans ces fruits, il y a la guérison, il y a la délivrance des gens. Il y a une récolte d'âmes qui devrait augmenter. Et ça, c'est pour nous tous, pour chacun d'entre nous. Il devrait avoir une productivité, une production de fruits qui doit normalement, qui devrait être de plus en plus grande dans notre vie. Donc, la liberté en Christ, j'ai parlé de la folie, c'est là aussi où, sur ce chemin de l'obéissance à Dieu, où Dieu va nous amener à faire des choses un peu folles, c'est là où Dieu va voir quelle est la gloire qu'on recherche. La Bible dit qu'il y a plusieurs Juifs qui ont cru en Jésus, mais ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Et la Bible dit parce qu'ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Il y a des fois où Dieu peut vous dire de faire quelque chose et c'est complètement fou. C'est fou. C'est illogique. C'est quelque chose que peut-être même personne n'a jamais fait, en tout cas de ce que vous savez. Et pourtant, Dieu vous dit de faire ça. Et quand vous le faites, c'est la gloire. Mais si vous ne le faites pas, vous passez à côté. Et il y a des choses, des pas d'obéissance comme ça que Dieu nous demande de faire. Et quand on les fait, on arrive à une dimension plus grande. On arrive à une nouvelle étape. Des choses simples, parfois simples. Et souvent, c'est simple. Des choses naturelles. Mais quand on les fait, quand on obéit au Seigneur, ça nous amène une dimension de gloire plus grande. On a parlé, le parfum, il a une mesure. Ça nous amène à une mesure plus grande. L'apôtre Paul, il est pas devenu l'apôtre Paul comme ça du jour au lendemain. On sait qu'il a été, je crois, c'est 14 ans, mis à part, à partir du moment où Dieu l'a visité puissamment. Donc il y a une préparation. Un leader ne naît pas leader comme ça du jour au lendemain. Il est éprouvé, il y a quelque chose qui se passe et il devient un leader. C'est pour ça qu'on voit, il y avait des rois dans l'Ancien Testament, des gens qu'on appelait comme ça de père en fils ou comme ça, qui arrivaient comme ça parce qu'ils avaient tué l'ancien roi, etc. Et on voit qu'il y en a, ils faisaient n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des leaders, des bons leaders en tout cas. Donc, on est appelé à aller de gloire en gloire et la Bible dit de ne pas mépriser les petits commencements. Si on méprise la mesure de l'Esprit de Dieu qu'on a sur nous aujourd'hui, on va mépriser ce qui vient après. Si on méprise ce que le Seigneur nous a donné, l'onction qu'il a mise sur nous, la mesure d'onction que nous avons, on est en train de mesurer, on est en train de mépriser le Saint-Esprit dans notre vie. On est en train de mépriser ce que Dieu fait au travers de nous. Et ça, c'est un danger. C'est pour ça que la Bible a voulu préciser ça, de ne pas mépriser les petits commencements. On ne doit pas mépriser Bethléem. Souvent, Dieu choisit, la Bible dit, les choses faibles pour confondre les fortes. Il choisit les choses qu'on méprise, celles dont on dit « ça ne vaut rien », pour confondre celles qui sont, soi-disant, les plus intelligentes et les plus sages. On sait que Dieu, il a toujours fait ça, il se glorifie comme ça, de cette façon-là, en choisissant, entre guillemets, les moins que rien, ceux dont on disait « c'est des vauriens, ils ne valent rien ». Et Dieu se glorifie au travers de leur vie parce qu'ils savent que eux-mêmes, ils savent d'où ils viennent. Ils savent qu'effectivement, ils ne valaient rien. Et c'est à partir du moment où nous pensons valoir quelque chose que la présence de Dieu commence à diminuer et la gloire de Dieu se fait de vraiment tellement rare et s'éloigne de nous de plus en plus. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Saül, il s'est habitué et lorsque le prophète est venu vers lui, il lui a dit « Mais tu as manqué de révérence envers Dieu. Tu as manqué de révérer vraiment le Seigneur. » Et Saül, c'est vraiment un type de personne qui est... C'est tellement triste de voir comment cet homme a fini. Il a très mal fini. Parce que Dieu et la présence de Dieu, c'était devenu familier pour lui. Et en fait, il pensait être quelqu'un. Et c'est ça le problème. Ça a été, depuis l'origine des temps, ça a été le problème. Lorsque le diable a pensé être quelqu'un et qu'il a voulu aller au-dessus de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont pensé être comme Dieu, être aussi intelligent que Dieu. Lorsque les gens pensent être quelqu'un, c'est là que c'est dangereux. C'est un des plus grands dangers dans notre ministère à tous, c'est lorsque nous tombons dans l'orgueil spirituel. Et là, l'orgueil, ça, la gloire n'aime pas l'orgueil. La gloire n'aime pas ça. Ça ne marche pas ensemble. Donc dans cette liberté, là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté, si le Saint-Esprit est sur nous et il est sur nous, on doit marcher dans une liberté. Donc lorsqu'il nous parle et qu'il nous demande de faire des choses, on doit marcher dans cette liberté. On doit faire ce qu'il nous demande de faire. Et ça va nous amener aussi dans une plus grande liberté. Donc dans des choses beaucoup plus libres. On est parfois, lorsqu'on est dans ce ministère de la mort, ce ministère de la loi, de la lettre qui tue, on est emprisonné. On marche dans une vie chrétienne, mais complètement emprisonné. On est pris comme dans un filet, complètement, comme Jonas qui est là au fond de la baleine. Il est comme emprisonné, il est là, il ne voit rien, il est lié. Et lorsqu'on n'est pas en train de marcher dans la liberté en Christ, c'est un peu comme ça qu'on est. On est lié, on n'est pas libre. Le Seigneur nous appelle dans la louange à se mettre à genoux et on a des forteresses dans nos têtes. L'amour de nous, l'amour des gens. Et ça, c'est, ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Des simples choses comme ça, parfois, on passe à côté de choses extraordinaires. C'est des choses que peut-être on a tous vécues où Dieu nous amène à faire quelque chose de fou, que personne ne fait actuellement. Mais pourtant, on sait que c'est lui. Et on fait éteindre la voix de Dieu petit à petit en se disant, bah voilà, il y a ceci, il y a cela. Et là, les raisonnements commencent à venir et commencent à écraser la voix de Dieu. Parce que l'on sait que l'Esprit du Seigneur, il est doux, comme Jésus, humble de cœur. Il frappe, mais c'est à nous d'ouvrir. Donc, plus on écoutera le Seigneur, plus on marchera dans une liberté beaucoup plus grande. Et dans cette liberté, il y a des choses vraiment extraordinaires. Au chapitre 4 et au verset 2, l'apôtre Paul dit « Nous refusons les cachotteries honteuses, nous ne nous conduisons pas avec fourberie, et nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. » Donc là, on voit trois choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, en tout cas qui peuvent nous empêcher de voir la gloire de Dieu et de la manifester. La première des choses, c'est les cachotteries honteuses. La deuxième, c'est se conduire avec fourberie, donc c'est notre conduite. Et la troisième, c'est altérer la parole de Dieu. Ça, ce sont trois choses qui peuvent nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Ce sont trois choses qui peuvent nous empêcher que le voile tombe. Trois choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans une liberté en Christ. La première des choses, ce sont les cachotteries honteuses. Ça, c'est du péché. Du péché qu'on garde dans notre vie et on ne le confesse pas. On reste dedans. Ça, c'est les cachotteries honteuses. Bon, ça peut être aussi d'autres choses, mais par rapport à ce dont je veux parler ici, là, c'est ce genre de choses. Il y a des gens, parfois, ils peuvent rester des années avec des cachotteries, des choses qui sont cachées et qui leur font honte. C'est pour ça qu'ils les cachent, d'ailleurs. Des cachotteries honteuses. Et pourtant, ça les empêche d'aller plus loin. Jésus a dit, mais si tu as quelque chose contre ton frère, avant de porter ton offrande, va voir ton frère. Je lisais ça, je ne sais plus si c'est ce matin ou hier, et je réalisais, mais quand je pense au nombre de chrétiens qui ont de la colère contre d'autres chrétiens, et ces gens-là se permettent de faire des offrandes à Dieu, que ce soit financières, que ce soit des offrandes en louange, en adoration, et pourtant ils ont de la colère contre des gens. Et ça, c'est quelque chose de terrible dans le royaume de Dieu. La colère et l'amertume et la haine, c'est tellement contraire à l'esprit du royaume et à l'esprit de Dieu. Et ça, c'est ce genre de cachotterie. On est là, on sert Dieu, et à l'intérieur de nous, il y a plein de choses mauvaises. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Vous vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de toute espèce de méchanceté. Ça, c'était des gens, ils avaient toutes sortes de cachotteries honteuses. C'est pour ça qu'il leur dirait, il n'y a rien qui est caché, qui ne doit être révélé. Et parfois, ça, les gens ne voient pas la gloire de Dieu parce qu'il y a des cachotteries qu'ils ont honteuses, qui les empêchent d'aller plus loin. Et ça, il faut savoir s'en débarrasser. Ça demande de l'humilité, ça demande de s'humilier sous la puissante main de Dieu. Parfois, ça demande d'aller voir un frère ou d'une sœur, de demander pardon. Parfois, ça demande aussi peut-être d'aller voir un frère ou une sœur pour trouver de l'aide. Parce qu'il y a des choses comme ça qui nous font honte, mais on ne sait pas comment s'en sortir. Et peut-être parfois, on a besoin d'aide. Et dans le Nouveau Testament, la Bible va nous parler de confesser nos péchés les uns aux autres. Ça, l'Église catholique, ils en ont fait quelque chose, une espèce de loi où on est là derrière le parloir, entre guillemets, et on est en train de confesser nos péchés, mais bon, ça ne vaut rien la plupart du temps. Mais il y a une réalité en Christ pourtant, de se confesser les péchés aux uns aux autres. Un jour, il y a un homme, un frère qui est venu me voir quand j'habitais en France, et lui, il avait une cachotterie honteuse dans sa vie. Et il est venu, il me l'a confessé. Et au moins, on a pu combattre ensemble dans son combat pour qu'il puisse en sortir. Et il s'en est sorti, gloire à Dieu. Parce qu'il il a été voir quelqu'un pour l'aider. Il a dit, non, je ne veux pas rester avec ça dans mon cœur, mais je vais m'en débarrasser. Et parfois, simplement, le fait de le confesser, ça nous libère. La confession, c'est vraiment très puissant. Donc ça, c'est le premier genre de choses, les choses qui sont en nous. Ça ne se manifeste pas, mais c'est en nous, la colère. Des choses tellement importantes. La colère, c'est vraiment pas bon. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie. Donc ça, on sait que ça nous parle d'hypocrisie. Ça peut être relié avec ce qui est dans notre cœur aussi. Mais plus généralement, c'est notre conduite. Donc la façon dont nous vivons dans notre vie. Ce que nous sommes, ce que nous manifestons par nos actions, par nos paroles. Si nos paroles et nos actions sont malhonnêtes dans le sens où ça rejoint un peu la première pensée, mais on dit des choses et on fait paraître quelque chose qui n'est pas, on est en train de se conduire avec fourberie. Donc on est là, ça va bien avec le premier exemple, on fait paraître quelque chose, on est en train de louer Dieu, mais à l'intérieur de nous, il y a toutes sortes de choses mauvaises. Mais là, c'est plus dans l'aspect de la conduite. Donc l'hypocrisie, faire des choses qui ne sont pas avec ce qu'on a dans le cœur. Et troisième chose, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Là, c'est aussi quelque chose de vraiment très important, c'est la façon dont nous voyons la parole de Dieu et la façon dont nous appliquons la parole de Dieu, la façon dont nous croyons la parole de Dieu. Donc nous n'altérons pas la parole de Dieu, la valeur que nous donnons à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous dit quelque chose, quelle est la valeur que nous donnons à cette parole. Lorsque nous altérons la parole de Dieu, c'est lorsque nous disons « oui, mais ». La parole de Dieu dit « oui, mais ». Et ça, c'est le bel exemple des 12 espions, des 10 espions, lorsqu'ils ont dit « oui, mais ». Et Josué et Caleb, eux, on sait qu'ils ont parlé différemment. Qu'est-ce qu'ont fait ces espions? C'est qu'ils ont altéré la parole de Dieu. Dieu avait dit « mais », ils ont altéré cette parole. Donc ils l'ont froissé. Ils ont mis un voile sur cette parole, le voile de leur incrédulité, qui les a empêchés de voir réellement. Hein, on a parlé des oreilles pour entendre ou des yeux pour voir. Donc ils altèrent la parole de Dieu. Si la parole de Dieu, on met des oui, mais, on met des mais à la parole de Dieu, bah, c'est sûr qu'on aura du mal à vivre dans la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Parce que La gloire de Dieu, c'est quelque chose de très pur, de très saint. Et on sait que Dieu ne manifeste pas sa gloire à n'importe qui, on l'a dit. Donc ça se passe dans la sainteté, ça se passe dans l'intimité. Ça se passe dans un cœur à cœur avec Dieu. Ça ne se passe pas dans la perfection parce que personne n'est parfait. Mais ça se passe dans un cœur honnête, un cœur sincère, un cœur qui désire réellement voir la gloire de Dieu. Donc nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous marchons sur cette parole. Nous croyons cette parole. L'apôtre disait, nous n'avons pas prêché le oui et le non. Mais la parole est oui et amen. C'est ce oui en Jésus. Et ça doit être ça, la parole de Dieu pour nous, ce oui en Jésus. Et cette parole, elle vient, la Bible dit que c'est comme un miroir pour nous et nous montre comment on est. Et c'est sûr que cette parole, elle vient régulièrement, peut-être chaque semaine, faire des réglages dans notre vie. Et c'est là où on va voir, est-ce qu'on altère la parole de Dieu? Est-ce qu'au bout d'un moment, on va dire oui, mais bon, c'est bien, mais bon. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils entendent un message, ils entendent une parole, mais il y a le mais qui est là, parce qu'ils ne veulent pas réellement changer. Ils sont comme la femme sulamite qui est là et qui est en train de chercher son bien-aimé et elle aurait pu s'arrêter juste à la porte. Bon, il n'est pas là, simplement, sans aller plus loin. Mais elle est allée plus loin. Comme l'apôtre qui disait, il m'a cherché, mais il m'a trouvé. Il faut aller jusque-là. Au verset 6, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, à briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Donc, la gloire de Dieu, on l'a dit, elle vit en nous. Elle est là, à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment beau, ce passage. Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Donc, au travers de notre cœur, de notre esprit, il devrait avoir une gloire qui se manifeste. C'est ce qu'il dit ici. La lumière brillera du sein des ténèbres. C'est beau, dans les évangiles, on voit que, je crois que c'est la terre de Nephtali là, et de Zabulon, là où Jésus est passé, et la Bible dit que de cette terre-là, de ténèbres, elle a vu une grande lumière. Sur elle, la lumière paraît. Et c'est ça, la lumière brillera du sein des ténèbres. Cette lumière qui est appelée à briller du sein de notre cœur, qui n'est maintenant plus ténèbres, qui est lumière. La Bible dit que la lumière n'est pas faite pour être cachée, mais que votre lumière brille devant les hommes. C'est ce que Jésus disait. Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Comment on va lui redonner du goût? Donc nous, on est ce sel, on est cette lumière. Et ça doit se révéler. La gloire du Seigneur doit se révéler. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas tout. Hein. Les pasteurs, ils ne savent pas tout. Hein. C'est la révélation peut-être pour certains. Non, je sais pas. Peut-être par rapport au fait que la gloire de Dieu est associée, c'est sûr, à Christ, au visage de Christ. Le serviteur disait, je vais voir son visage, en parlant du visage de Dieu. Et en même temps que le Christ était le reflet de Dieu sur la terre, c'est peut-être dans ce sens-là où la Bible, dans Jean chapitre 1, lorsqu'il est dit que la lumière est venue et il a marché au milieu de nous. Ce serait dans ce sens-là peut-être de la face de Christ, comme quand on regarde la parole de Dieu et que c'est comme un miroir, on se voit face à face. Ce serait peut-être dans ce sens-là. On fait resplendir la gloire de Dieu sur la face de Christ, dans le sens où c'est vraiment une association entre Dieu et Christ sur la terre. Donc on porte ce trésor dans des vases de terre, mais là ça parle de cette insuffisance, cette incapacité dont on a parlé au départ, Et c'est clair, on est un vase de terre par rapport à la puissance et à la gloire de Dieu. On peut se dire, mais pourquoi et comment Dieu a pu faire et peut faire vivre? Comment il peut vivre en nous alors qu'on se sent si petit? Et là, ça tombait bien, une question comme ça. On n'a pas toutes les réponses. On ne connaît pas encore parfaitement, la Bible dit. Mais un jour, on connaîtra comme on a été connu. C'est pour ça qu'on pourrait vivre encore des centaines d'années et on ne connaîtrait pas encore parfaitement. Parce qu'on est appelé à aller de gloire en gloire et on porte ce trésor extraordinaire de la gloire de Dieu dans des vases de terre. Et c'est là où, on disait tout à l'heure, Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Dieu se glorifie en prenant des gens, des vases de terre, mais des vases de terre qui comportent un trésor, une lumière extraordinaire. Et c'est là que si on marche selon l'homme psychique, c'est-à-dire juste dans notre intellect, on va être voilé et on va empêcher à la présence de Dieu de se manifester parce qu'on regarde au vase de terre que nous sommes, au lieu de regarder au trésor que Dieu a mis en nous. Et souvent, les gens s'empêchent et empêchent Dieu d'agir dans leur vie parce qu'ils regardent à ce qu'ils sont, dans leur nature charnelle, au lieu de regarder à ce que Dieu a fait d'eux. Dans leur nature spirituelle. L'homme spirituel, c'est quelqu'un qui marche dans cette liberté en Christ et c'est quelqu'un qui va manifester la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui va manifester ce trésor que Dieu a mis en lui. Et il y a cette parabole que Jésus a donnée sur les talents et ça nous parle de ça. Quelqu'un qui a reçu le talent, mais il a peur. Et il va le cacher parce qu'il a peur de son maître. Il a une mauvaise façon de voir son maître. Il a une mauvaise pensée de qui est son maître. À cause de ça, il a peur. Il cache son don. Et nous, parfois, il y a des peurs qui sont là et à cause de ça, on cache ce trésor. On a peur de ce que les gens vont penser, on a peur de ceci et de cela. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. On porte ce trésor dans des vases de terre. Dieu aurait pu faire les choses différemment. Dieu aurait pu faire qu'au moment où on est de nouveau, on a un corps tout de suite glorifié. On a un corps qui est complètement transformé. Parce que c'est le plus grand des miracles qu'on a vécu. Spirituellement, c'est extraordinaire. Le plus grand miracle qu'un homme puisse vivre sur cette terre, c'est la nouvelle naissance. Donc Dieu aurait pu faire quelque chose dans le naturel d'aussi glorieux. On aurait pu devenir des surhommes, tout à coup. Mais il n'a pas voulu comme ça. Il a voulu qu'on conserve ce corps de chair. Et même Jésus-Christ, la Bible dit, il est descendu parmi nous. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et pourtant, Dieu l'a choisi. Il s'est élevé comme une faible plante. C'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. Et les gens ne l'ont pas, pour beaucoup, ils ne l'ont pas reconnu. Les pharisiens ne l'ont pas reconnu, pourtant il était devant eux, parce qu'ils s'imaginaient un Messie différent. Ils s'imaginaient un Messie glorieux, extraordinaire, arrivé sur des chevaux, rempli d'or, etc., alors qu'il est venu sur un âne, sur une petite bête. Et c'est ce que dit la Bible, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Ça ne vient pas de façon à frapper les regards. Et la gloire de Dieu, la présence de Dieu, ça ne vient pas aussi de façon à frapper les regards parfois. Ça nous prend comme ça, on est chez nous, et paf, ça tombe sur nous, comme ça. Simplement, il faut y aspirer, il faut avoir soif, soif, soif. Je me souviens, j'ai hésité à le raconter, mais... Je crois que je dois le faire. J'étais dans mon ancienne maison. Il y avait un temps en particulier que je vivais de consécration. Et cette gloire comme ça est venue sur moi. Et je me souviens, j'étais dans mon lit. Et la gloire de Dieu était tellement forte que j'avais oublié de me laver les dents. Et je pleurais sous la présence de Dieu. Et j'étais dans ma salle de bain, j'allumais ma lumière et je me brossais les dents en pleurant. Sous la présence de Dieu, tellement la présence de Dieu était forte sur moi. Ça, c'est extraordinaire. C'est la présence de Dieu, la gloire qui vient. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il dit que les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Ça nous appartient. C'est pour nous. Vivre dans la gloire de Dieu, c'est pour nous. Si réellement on cherche Dieu, si on crie vers Dieu, il viendra nous toucher. Même si on est des vases de terre, même si on est ceci ou cela, il viendra nous toucher. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Il ne regarde pas, on sait, à ce qui frappe les regards, il regarde au cœur. C'est à ça que Dieu regarde. Il regarde au cœur. Je crois que je dois terminer comme ça. Peut-être avec ce verset de chapitre 4, verset 18. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, mais les invisibles sont éternelles. Et qu'on puisse vraiment regarder à ces choses invisibles. Pas aux choses visibles qui nous arrêtent, mais vraiment aux choses invisibles. Et la gloire de Dieu, c'est au départ invisible. Et après, ça se manifeste. Voilà.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.